l'espace de Babel, Gabriel de Sarzon.
Il aura fallu 2 ans aux églises italiennes pour acheminer 1000 migrants de Beyrouth au Liban jusqu'à Rome en Italie par voie aérienne. Des migrants en majeure partie syriens et irakiens qui fuient la guerre au Moyen-Orient. Bonjour et bienvenue à vous. Nous allons parler aujourd'hui de couloirs humanitaires et c'est avec vous Tristan Michel. Bonjour.
Bonjour Gabriel.
Le dernier vol qui achemine des migrants en Europe en évitant les passeurs et surtout les dangers de la Méditerranée a eu lieu il y a 3 semaines et vous y étiez.
Oui, en effet. Alors, le dernier vol de cette première opération, puisqu'on a appris la semaine dernière que le gouvernement italien avait accepté de renouveler le programme en accordant 1000 visas humanitaires supplémentaires.
Donc disons que vous étiez sur le dernier vol de ce premier volet.
Oui, voilà, exactement. Je vous propose de vous rendre dans la cour de l'école Saint-Grégoire, une école jésuite de Beyrouth. C'était juste avant le départ, juste avant de se rendre à l'aéroport. Tout le monde était réuni pour un dernier au revoir. Et Silvia Turrati, des églises protestantes italiennes, avait du pain sur la planche.
On est dans ce préau de cette école, il y a des enfants qui jouent au basket et des familles, beaucoup de familles avec leurs valises qui sont prêtes au départ. Je vous voyais mettre des petites étiquettes sur les valises.
Oui, aussi parce qu'en Italie, une fois qu'on arrive à Rome, donc nous, sur les étiquettes, on a écrit le nom de la personne et la destination finale en Italie. Et de façon que quand on arrive à Rome, tout est déjà organisé, les bagages sont divisés par destination.
Et je voyais que vous avez mis plein de villes différentes. En fait, les gens n'arrivent pas à un endroit.
Oui, c'est partout en Italie. En fait, on a plusieurs destinations au nord de l'Italie. On a des villes comme Torino, Padova, Genova, Gorizia, Milano, Arezzo, Toscana. Et puis, on a le sud de l'Italie, en Sicile. Ok, je vais juste voir avec une famille si tout va bien. C'est la famille de Marhaba, Kifkon, Kulutamam, Jazin. Quella Sahafi, min Svizzera, Kitobas et Salou. Kif t'hassou l'yom, yani billa?
L'yom, yani farha la tawsaf. Rah, comme on dit, n'aïch hayat jdide, inna Allah rad.
Elles vont vivre une nouvelle vie, si Dieu veut.
Là, il y a les enfants autour de nous. L'enfant nous tendait un biberon. Ça, c'est vos enfants, ça?
Oui. Adol, Aulada.
Aulada,
oui. Et qu'est-ce qui était difficile ici au Liban pour vous?
بالنسبه لهون صعوبات اولا حريه مثل العاده ما في حريه العمل ما في معامله الاشخاص جدا سيئه. في امور منا طبيعيه وخصوصي انه في شيء اسمه اضطهاد بالبلد في شيء اسمه اضطهاد في بعض المناطق طبعا مش كل المناطق
donc ici la vie c'est difficile parce qu'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de liberté de travailler, pas de liberté de se déplacer de ville en ville parce que il y a les checkpoints, donc si tu n'as pas des documents tu ne peux pas te déplacer. Et les comportements des gens des Libanais envers les Syriens c'est très mauvais. Et en plus, il y a quelque chose qu'on peut appeler racisme.
Silvia Turrati, ça fait partie des familles vulnérables que vous accompagnez lors de ce couloir humanitaire?
Oui, ils viennent d'une famille très vulnérable. Donc, ils ont 5 enfants. Ankon Khamsa Oulad, Mazbout. 5 enfants. Donc, 2 sont sourds-muets et 1 aveugle.
2 sourds-muets et 1 enfant aveugle.
1 enfant aveugle, oui.
Depuis combien de temps vous êtes au Liban?
Ils sont ici depuis 2012.
Ah ouais, depuis 2012, donc ça fait 5 ans qu'ils sont, entre guillemets, coincés au Liban.
Oui, c'est ça, voilà. En fait, les gens sont coincés ici parce qu'ils n'ont pas de choix. Donc, ils ne peuvent pas retourner en Syrie à cause de la guerre ou à cause de problèmes personnels. Et c'est très difficile d'obtenir un visa pour l'Europe. Et donc, où ils peuvent aller? Ils sont coincés ici.
On entendait Silvia Turrati des églises protestantes italiennes à l'instant. Tristan Michel, ces couloirs humanitaires entre le Liban et l'Italie, c'est une initiative écuménique.
Oui, le projet est né de la collaboration de la Fédération des Églises protestantes en Italie et de la communauté catholique de Sant'Egidio. Et suite à cette entente, les soutiens ont afflué d'un peu partout. Côté suisse notamment, le programme est soutenu par l'EPER, l'entraide protestante suisse.
Et Tristan, pour tirer le bilan de ces couloirs humanitaires, vous avez rencontré une femme, Gaëlle Courtens.
Elle est chargée de communication à la Fédération des Églises protestantes en Italie. En fait, je l'ai eu en entretien en arrivant à Rome. On est revenu ensemble sur ces 2 ans, en commençant par le commencement.
La Genèse a une date précise et c'est le 3 octobre 2013. Le 3 octobre 2013, devant la côte de Lampedusa, donc une petite île que se trouve entre le continent africain et le continent européen, mais qui fait encore partie de l'Europe étant donné que c'est sur territoire italien, même si en plein milieu de la mer, devant Lampedusa, 368 personnes se sont noyées alors qu'elles essayaient de se sauver. En Europe. Cet événement a très très fort touché l'opinion publique et ne pouvait pas non plus toucher les églises protestantes notamment, qui ont quelques mois après ouvert un observatoire pour les flux migratoires méditerranéens sur l'île de Lampedusa. Donc on a ouvert un observatoire, on l'a appelé Mediterranean Hope. Donc, espoir méditerranéenne. On y a envoyé tout d'abord 2 jeunes chercheurs. Et c'est là, à Lampedusa, que nous est venue l'idée, en regardant la mer et en essayant de se poser, mais comment est-ce qu'on peut faire la question pour éviter que les gens doivent mourir en mer pour accéder à un droit humain, qui est le droit de demander l'asile. Et c'est là que l'idée nous est venue, on s'est mis au boulot. On a commencé à étudier les normatives européennes sur les visas, l'accès à l'Union européenne, à l'espace Schengen, et ainsi de suite. Et c'est là qu'on a trouvé un petit article à l'intérieur du codex des visas pour l'espace Schengen qui dit que les personnes qui ont des nécessités humanitaires et pour motivation humanitaire peuvent obtenir un visa pour accéder dans un des pays de l'espace Schengen, un accès qui est à territorialité limitée et qui donc pouvait fonctionner pour notre cas. Et c'est là qu'on pouvait s'accrocher à une possibilité pour faire arriver les personnes non par la mer et en risquant leur vie et en plus en alimentant, on va dire, le business des passeurs, qui est un business milliardaire. On s'est dit, OK, on va essayer par ce biais-là.
Donc, on voit concrètement les migrants mourir en mer et on se dit, on va les faire venir en avion par les airs. Et donc, de là naît tout un processus de réflexion. On imagine d'où est-ce qu'on va partir, qui on va sélectionner, où est-ce qu'on va arriver. Tout ceci, ça a dû maturer.
Ça a maturé, mais tout d'abord, alors la grosse difficulté à la base a été celle de convaincre les institutions italiennes, les autorités, le gouvernement, pour pouvoir... Parce que la société civile, elle est pleine de bonnes idées, pleine de bonnes intentions, elle a envie d'exprimer sa solidarité, mais et s'il n'y a pas une réponse de la part des institutions, ça devient très compliqué. Donc on a eu plusieurs rencontres avec le ministère des Affaires étrangères et de l'intérieur, bien évidemment. Et on a réussi à les convaincre. Alors, une fois qu'on s'était mis en partenariat avec la communauté de Sant'Egidio et qu'on a eu l'assurance du soutien financier par les fonds du contribuable italien qui sont donc donnés à l'église vaudoise italienne.
On reviendra sur ce concept de auto permile, finalement, c'est cette fameuse taxe qui vous a permis de financer cette opération.
Voilà, exactement. Donc, en fait, ça nous a permis, on va dire, de commencer une espèce de start-up, donc un projet pilote, vraiment, qui avait besoin d'un capital à la base. Et donc, une fois qu'on avait conçu ce partenariat à trois, on a été plus fort. Et effectivement, d'un point de vue des relations diplomatiques, surtout grâce à Sant'Egidio, on a réussi à obtenir ce protocole, un protocole d'entente qui était prévu pour 1 000 bénéficiaires.
Pourquoi le Liban ?
parce que vous avez vu Lampedusa, mais Lampedusa, on part pas forcément du Liban. Pourquoi tout d'un coup on s'est dit, on va commencer notre couloir aérien depuis le Liban? Alors, Liban, pays voisin de la Syrie, ça semble évident. Pourquoi le Liban?
Mais en fait, au Liban, on avait des connexions, des relations avec des groupes de personnes, en particulier une association qui s'appelle Pape Jean XXIII, qui travaillait sur le terrain, qui nous ont permis de connaître en fait les tout premiers réfugiés arrivés d'un camp qui s'appelait Tel Abbas, au nord du Liban, près de Tripoli. Et donc, c'est les toutes premières familles qui sont arrivées grâce à la collaboration qu'on a pu avoir avec cette association Jean 23. Et puis de là, on a construit un réseau de connaissances de différentes associations qui travaillent sur le terrain avec les réfugiés et qui sont aussi des partenaires d'églises, donc d'églises protestantes sur le terrain, ou bien des réalités catholiques sur le terrain avec Sant'Egidio. Et donc là, ça a été plus facile d'un point de vue logistique parce qu'on avait déjà des connexions.
Des aides, par exemple, des gens qui ont trouvé refuge chez les franciscaines, chez les jésuites. Tout ça, c'est un réseau qui s'est mis en place pour venir en aide à ces gens.
Voilà, exactement. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Et puis, on a eu tout de suite une réponse chaleureuse. D'ailleurs, c'est quelque chose de spécial de ce projet que nous ne nous attendions pas du tout. Mais c'est que ce qu'on a expérimenté, c'est que la solidarité est contagieuse. C'était quelque chose d'assez extraordinaire.
Vous avez vu une motivation, vous avez titillé comme ça cette motivation et vous l'avez vu prendre vie.
Mais si vous pensez que, par exemple, Alitalia, la compagnie de vol qui nous permet de mettre 120 réfugiés dans le même avion sur un vol de ligne, ils nous offrent les billets. Et dès le tout premier vol, on n'a jamais payé un billet de Alitalia. Ils avaient envie de faire partie de cette incroyable aventure. Et la direction d'Alitalia a décidé, OK, pour ces gens-là, ils ne doivent pas payer. Et on a eu d'autres exemples de solidarité incroyable. C'est quand, parmi une des premières familles qui est arrivée, il y avait un petit garçon de 10 ans qui avait perdu sa jambe parce qu'il avait sauté sur une bombe chez lui en jouant au ballon dans son quartier à Homs. Et Dia est arrivée avec ses béquilles et on a eu la proposition d'un grand sportif italien qui lui-même a perdu ses jambes. C'est un conducteur de Formule 1 et qui lui-même a eu un accident. Il a perdu ses jambes, mais il a ouvert un dispensaire pour les prothèses pour enfants. Il a assuré la prothèse à ce petit Dia, mais non seulement il lui a assuré la prothèse, mais tout son parcours jusqu'à ce qu'il sera adulte, parce que les prothèses, avec la croissance, doivent être adaptées à la... Donc ça, c'est un autre exemple. Ou bien on a eu les gens qui nous remplissaient de vêtements, qui nous apportaient des chaussures. Enfin, c'était incroyable, incroyable.
Gaëlle Courtens de la Fédération des Églises Protestantes Italiennes. Tristan Miquel, elle évoquait la solidarité qui s'est créée autour de ces couloirs humanitaires, mais on s'imagine bien que toutes ces bonnes volontés ne suffisent pas à financer l'ensemble de ce projet.
Alors non, loin de là, hein. Ce qui a financé les 2 millions d'euros qui ont été nécessaires à l'opération, Gaëlle Courtens l'a rapidement évoqué, c'est le auto per mille. En fait, c'est une spécificité italienne, le auto per mille, c'est une part de l'impôt sur le revenu. Beaucoup d'Italiens choisissent de reverser cette taxe aux églises réformées et méthodistes, à la Tavola Valdese, la table vaudoise notamment, pour des projets d'utilité publique.
Et Tristan Miquel, lorsque vous étiez sur place à Beyrouth, vous avez suivi différentes personnes, plusieurs familles notamment, qui ont dû fuir la Syrie.
Oui, en effet, des histoires très différentes des unes des autres. J'ai notamment rencontré Nadine, 23 ans, mariée de force à 14 ans, qui a dû fuir la Syrie avec sa mère, sa sœur et sa fille. En fait, elle a dû fuir notamment à cause de la guerre, mais aussi à cause de son mari, violent, qui tentait de la retrouver, elle et sa fille.
بشكل عام لأنه بتعرف الأوضاع صار في حرب هونيك Donc, ils ont quitté la Syrie en général à cause de la guerre. Leur situation dans leur village était très difficile. Et donc, comme beaucoup de monde, ils ont quitté la Syrie. Elles sont arrivées ici au Liban. Mais elle dit aussi qu'ici au Liban, la situation, c'est quand même très difficile parce qu'en tant que Syrien, ils n'arrivent pas à travailler. Ils ont aussi des difficultés pour manger, pour avoir l'argent pour manger ici au Liban. Donc le problème en général pour les Syriens aussi au Liban, c'est que si les Libanais savent qu'elles sont syriennes, ils les traitent très très mal. Et il y a aussi un problème de haine.
De haine.
De haine, oui.
Ça, Sylvia Tourati, vous le constatez aussi, peut-être cette tension entre les Libanais et les Syriens, parce qu'il y a énormément de migrants au Liban. Il y a des tensions vis-à-vis des migrants qui viennent de leurs voisins, la Syrie.
Oui, il y a bien sûr il y a des tensions parce qu'en fait, le Liban, c'est un pays très, très petit qui a déjà des problèmes. Et avec la guerre en Syrie, ils sont arrivés aussi presque 2 millions de Syriens qui sont enregistrés. Et donc, il y a toujours des tensions parce qu'en fait, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de possibilité pour les Syriens pour de travailler, de s'intégrer dans cette société, même si cette société, c'est une société arabe, donc on parle la même langue, on a les mêmes habitudes.
Je crois, Nadine, aussi que vous êtes cachée ici avec votre famille ici dans ce cloître des franciscaines. Et la maman, elle est comment? Elle est stressée ou elle est joyeuse? Elle est dans quel état?
انتي كيف تحسي يعني خايفة مبسوطة شو شعورك؟
مبسوطة أنا كتير ومتوترة حتى يعني كمان.
Donc elle est très heureuse mais aussi un peu stressée parce qu'en fait c'est un nouveau départ et elle est un peu stressée parce qu'il faudra recommencer une vie de la base. Donc elle espère aussi de vivre en sécurité et de commencer une belle vie.
Vous avez déjà fait votre valise?
Leurs valises sont prêtes déjà depuis des jours.
Le témoignage d'une femme migrante qui a pris un vol de ces couloirs humanitaires mis sur pied notamment par la Fédération des Églises Protestantes d'Italie. Tristan Michel, quels sont les critères de sélection de ces migrants? Comme l'opération est financée à travers les églises, est-ce que cela signifie que les chrétiens d'Orient, par exemple, ont pu être favorisés?
Eh bien, pas du tout. Ce sont notamment des ONG laïques qui sélectionnent les profils sur des critères internationaux. Gaël Courtens le confirme d'ailleurs. On l'écoute.
Pour nous, c'est logique de nous tenir aux conventions internationales. Et les conventions internationales disent que les personnes qui peuvent demander l'asile, elles peuvent le faire indépendamment de leur religion, de leur ethnie, de leur nationalité et de quoi que ce soit. Donc nous tenons à cette règle. Après, nous sommes convaincus que justement en tant que chrétiens, il faut accueillir tout le monde et il ne faut pas faire de différence.
Et du coup, les critères, quels sont-ils? Les critères de vulnérabilité, on l'a dit.
Oui, donc c'est vraiment les critères de vulnérabilité, les situations de défavorisées. On a beaucoup de femmes qui ont des situations très, très compliquées. Il y a peut-être 80% des femmes qui ont été victimes de violences aussi physiques. Donc ça aussi joue énormément. Puis on a des gens qui ont été torturés, qui ont eu donc des traumatismes quand même assez importants. Et puis il y a des familles qui ont compris qu'ils ne pourront plus jamais retourner en Syrie. Il y a d'autres familles qui ont peur de retourner en Syrie, qui ont peur de représailles. De toute façon, pour l'instant, tout est détruit, ils ont tout perdu. Il y en a qui ont des enfants qui ont des situations de santé très, très compliquées, qui ont besoin de soins et de thérapie. Donc, tout ça peut être offert en Italie à travers le système sanitaire public italien.
Il y a la condition en Syrie, il y a aussi la condition de ces personnes au Liban, qui n'est pas forcément toujours plus simple.
Non, pas du tout, surtout si vous pensez qu'au Liban, il y a quand même 25% de la population aujourd'hui qui sont des réfugiés syriens. C'est énorme dans un tout petit pays avec 1 million d'habitants. C'est comme si en Suisse, il y avait 2 millions de réfugiés.
Oui, ça crée des tensions, forcément.
Ça crée beaucoup de tensions, et surtout maintenant, ça fait quand même pas mal que ça dure, parce que la guerre a commencé il y a 6 ans, et le gros des réfugiés est arrivé il y a 4-5 ans. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui font partie de notre projet, qui sont venues, et qui avant de venir en Italie, ont vécu pendant 3-4 ans dans des camps de réfugiés. Ils ont des enfants qui n'ont jamais été à l'école, ils ont des enfants de l'âge de 10-12 ans qui ne savent pas calculer, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. C'est une génération qui risque d'être perdue. Donc on sent très très fort une très grosse responsabilité par rapport à ça.
Ouais, des réfugiés qui ne peuvent pas travailler aussi, hein, finalement, ce qui n'aide pas à leur insertion, ce qui n'aide pas à leur amélioration de leurs conditions de vie. Tout ça, ça fait des situations précaires.
Oui, je crois que je peux imaginer que ce doit être vraiment très très compliqué de survivre dans des conditions comme ça. Alors quelques-uns d'entre eux nous ont confié qu'effectivement ils avaient pensé à venir en Europe en profitant des possibilités que donnent les passeurs. Il y en a qui ont vraiment réfléchi et puis pour une raison ou pour une autre, ils ne l'ont quand même pas fait. Et heureusement qu'ils ne l'ont pas fait parce qu'ils risquent leur vie vraiment en mer. On voit ça tous les jours, on a des morts tous les jours.
Des gens qui ont de la peine à parler aussi hein, souvent de leur histoire. Alors soit parce que finalement ils ont des menaces encore qui pèsent au-dessus de leur tête, soit parce que par pudeur, mais c'est compliqué d'avoir le témoignage de ces parcours douloureux.
Oui, c'est vrai que c'est pas toujours facile pour ces personnes parce que ça les oblige de se rappeler des traumatismes et des violences qu'ils ont subies. Donc ils n'ont pas nécessairement envie de chaque fois re-raconter ce qu'ils ont vécu. Il faut leur donner du temps et je crois que c'est quelque chose que nos structures sont capables de faire. On a vécu ça aussi. On a eu récemment une conférence à Palerme où il y a plusieurs familles qui sont arrivées avec des couloirs humanitaires qui sont arrivées, qui sont hébergées dans la Diaconia Valdese dans le centre de la Diaconia Valdese de Palerme. Et ça m'avait assez frappé ce que la directrice Anna Ponente avait dit. Et elle avait dit ce que nous offrons surtout au départ, c'est un espace et du temps. Et moi, j'ai trouvé ça merveilleux, parce que s'il faut pas presser ces gens, il faut leur donner du temps pour poser leurs affaires, pour réfléchir, pour se retrouver, pour se recueillir, et puis à partir de là, reprendre de la pêche.
Alors, l'intégration... Une fois arrivé en Italie, de ces personnes, c'est peut-être le second volet. On a parlé du premier volet, c'est-à-dire le pont aérien depuis le Liban. Comment les faire venir en Italie? Quels sont les critères? Quels sont les financements? Une fois qu'ils arrivent en Italie, comment ils s'intègrent et est-ce que ça marche?
Alors bon, c'est chaque fois très très compliqué de dire est-ce que ça marche, que ça ne marche pas. Alors nous pouvons dire qu'on a eu quand même, en faisant un bilan de ces 1000 personnes, moi les derniers viennent d'arriver, donc faut quand même encore leur donner un petit peu de temps, mais finalement ça a été un succès. Alors, on peut vraiment dire que ça a été un succès. Et les personnes arrivent, et elles sont tout de suite prises en charge, tout d'abord pour ce qui est de leur situation juridique. Donc on les accompagne dans leur processus de demande d'asile. Ils commencent tout de suite avec des cours d'italien intensifs, 4 heures par jour, tous les jours pendant 3 mois. Les enfants vont tout de suite à l'école. On les accompagne aussi d'un point de vue sanitaire. Et puis, on leur permet de commencer tout doucement à se gérer en autonomie avec un cachet qui leur permet de faire leurs courses quotidiennes. Et donc, oblige les femmes, par exemple, à aller au marché, de parler avec, de faire leurs achats et donc de rentrer tout doucement comme ça dans la société italienne. Il y en a qui sont plus capables que d'autres, je crois que c'est humain. Il y en a qui ont beaucoup de peine et il y en a qui ont une capacité de résilience incroyable. Donc les cas sont très diversifiés. On a par exemple une jeune fille qui est arrivée à l'âge de 24 ans et qui a abandonné ses études en Syrie. Elle étudiait les langues modernes, donc elle parlait assez bien l'anglais, mais elle ne connaissait pas du tout l'italien. Et en 3 mois, elle a appris suffisamment d'italien pour pouvoir obtenir une bourse de l'université de Ferrara et continuer ses études en langue moderne à l'université de Ferrara.
Un autre exemple que les gens aiment bien raconter aussi dans ce projet, c'est l'exemple de cette famille qui a ouvert un restaurant à Turin. C'est vrai cette histoire ?
Oui, c'est absolument incroyable. Donc, c'est une famille assez incroyable et qui a une façon de se soutenir l'un l'autre tout à fait touchante. Et ils sont arrivés à Turin et après un an, ils ont effectivement ouvert un restaurant syrien. Et apparemment, ça marche, les gens vont. C'est une très belle histoire. D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait souligner, c'est l'importance de permettre aux gens de pouvoir rester en famille. Donc l'unité familiale pour nous, c'est quelque chose aussi de très très important. Et on a toujours fait en sorte que les groupes familiaux, parce qu'ils s'organisent presque comme des tribus hein, dans ces camps de réfugiés. Alors vous avez la mater familia, c'est autour de ça, il y a tout qui tourne. Parce que c'est grâce à cette unité et à la protection de cette affection que les personnes seront plus fortes et auront plus d'énergie pour s'intégrer convenablement. Nous croyons très très fort en ça. Et un des gros problèmes de l'Union européenne pour ce qui est de l'accueil des réfugiés, c'est justement les procédures extrêmement lentes de réunification familiale. Vous avez encore maintenant en Grèce des gens qui sont là depuis 2 ans et qui attendent d'être réunis à leur mari, par exemple, qui est en Allemagne ou en Suède, et ils sont encore là en train d'attendre avec des petits gamins dans les camps de réfugiés grecs. Et ça, c'est un problème européen.
Gaëlle Courtens, ça n'a pas toujours marché. Là, vous parlez des cas qui ont bien fonctionné. En 2 ans, vous avez quand même un peu revu votre politique et sélectionné d'autres profils parce qu'au début, l'intégration, c'était un peu moyen. On a dû s'adapter un peu. Vous avez tiré des leçons de vos erreurs, on pourrait dire ça comme ça. Vous avez appris au cours de ces 2 ans.
Mais bon, évidemment, tout a commencé comme une expérimentation. Donc, on s'est lancé dans cette histoire, dans cette aventure, et au cours du fil, effectivement, on a recalibré sans cesse nos.
Quelles étaient les erreurs du début, les erreurs de jeunesse?
Alors, les erreurs de jeunesse, je vais vous en raconter une. On a pris des familles musulmanes et chrétiennes qui étaient pro-Assad et anti-Assad, et on les a mis ensemble dans la même structure.
Bravo, bien joué.
On n'aurait jamais dû faire ça. Mais finalement, on a fait quand même une expérience assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'on a réussi, après 1 mois et demi, à ce que ces personnes s'asseyent ensemble autour de la même table et mangent ensemble. Donc, finalement, une erreur initiale, c'était vraiment compliqué parce que les gens ne voulaient pas se parler. Ils étaient vraiment, donc ça nous créait énormément de problèmes. Et puis finalement, ils avaient tous des enfants. Les enfants, ils jouaient tous ensemble. Ils se piquaient les vélos, les ballons, les trucs, machin. Et puis ça les a obligés à devoir se relationner l'un à l'autre. Et après 1 mois et demi, on a réussi à faire un grand repas tous ensemble autour de la même table. Alors qu'ils étaient au départ vraiment des ennemis de leur propre conflit.
Il y a aussi peut-être plus de jeunes sur la fin du projet où finalement le critère de motivation, de flexibilité, d'intégration a été plus pris en compte en disant mais voilà, on pense à ceux qui ont aussi la motivation et le projet pour s'intégrer. Peut-être qu'au départ, vous sélectionnez peut-être des familles en état d'urgence pour des soins, etc., mais qui avaient moins cette volonté de s'intégrer à un projet d'avenir. Est-ce que j'ai raison?
Mais bon, peut-être au départ, on n'avait pas vraiment compris que c'était un élément qu'il fallait vraiment bien expliquer. Donc, quand on fait nos entretiens au Liban, on a changé de stratégie. C'est-à-dire qu'on a expliqué vraiment, on a essayé de leur faire comprendre vraiment ce qui les attendait. Et l'Italie, c'est pas l'Allemagne, c'est pas la Suède. Les Syriens, ils s'attendent de venir en Europe et ils se disent c'est tout à peu près pareil. C'est pas vrai, c'est pas pareil. L'Italie a beaucoup de défauts, mais a aussi énormément de
qualité. Vous n'arrivez pas à le dire.
L'Italie a beaucoup de défauts, mais elle a quand même aussi beaucoup d'atouts, en commençant par l'humanité des personnes. Et donc, et puis la bonne bouffe aussi. Et puis finalement, je crois que culturellement, peut-être que les Italiens sont quand même plus proches des Syriens. On est quand même méditerranéens à la base que les Allemands ou les Suédois. Et alors, oui, on a eu des personnes qui ont été frustrées tout au début parce qu'on leur avait pas suffisamment bien expliqué ce qui les attendait.
Et là, justement, vous faites attention, vous, entre guillemets, vous mettez les gens
Vous faites attention au profil où vous les mettez pour que ce soit la meilleure intégration possible en fonction des profils des personnes?
Oui, en fonction de leurs capacités et de leurs compétences. Par exemple, on a eu un très beau projet dans le sud de la Calabre. Je ne sais pas si vous connaissez ce réseau de communes solidaires qui s'appelle la Rete dei Comuni Solidali. Et ce sont des petits villages du sud de l'Italie où la population, dans les dernières années, a très très fort diminué de par la crise financière et économique en Italie. Donc les jeunes partent de ces petits villages en Calabre. Et quelques-uns de ces villages ont dû fermer leurs écoles, ont dû fermer la pharmacie, ont dû fermer, il n'y avait plus assez de monde. Donc les maires de ces petits villages se sont mis ensemble en disant « on va essayer de le repeupler ». Nos villages sont des villages près de la mer ou en tout cas plutôt vers la montagne en Calabre. Et ont décidé de monter des projets d'accueil et de repopulation de leur village en voyant quels étaient les besoins de la population autochtone et quels sont les besoins des réfugiés qui viennent. Et donc en essayant de mettre ensemble les différentes capacités. Et on a eu 3 familles de nos couloirs humanitaires qui ont été en Calabre et qui ont été choisies sur la base de leurs compétences. Donc c'était des agriculteurs, un menuisier. Et puis le troisième, je ne me souviens pas, mais en tout cas, l'idée, c'était que dans cette petite commune de la Calabre, il y avait une grosse nécessité d'avoir des personnes qui aient une compétence spécifique dans ce domaine. Et donc, en fait, on a fait en sorte que les besoins des Italiens soient...
En adéquation avec les compétences.
Avec les compétences des réfugiés qui arrivent. Et donc aussi, une possibilité pour ces réfugiés d'être reconnus dans leur dignité et de pouvoir effectivement, à partir de tout de suite, participer à la collectivité, ce qui fait une grosse différence, je crois.
Ces 1000 migrants que vous avez fait venir, ils sont arrivés avec le statut de demandeurs d'asile. Alors on attend la réponse pour les derniers arrivés, puisque c'était il y a 2 semaines. Mais pour l'instant, ils ont 100% ont eu le statut de réfugiés. Mais voilà, 15% d'entre eux quittent le programme, partent pour l'Allemagne, pour la Suède. Dans ces cas-là, c'est un échec.
Oui, alors c'est un pourcentage que vous retrouvez aussi dans tous les autres systèmes d'accueil italiens aussi de l'État. Donc le système des requérants asile en Italie a à peu près ce pourcentage-là de personnes qui abandonnent les projets et qui partent, qui disparaissent, on ne sait pas très bien où ils vont. Donc finalement, étant donné qu'on est dans la moyenne, on ne s'inquiète pas trop par rapport à la réussite de notre projet.
Mais pourquoi ils partent ? Vous le savez ?
Alors oui, on le sait, c'est parce que, ce que je disais tout à l'heure, ils ont des proches ou de la famille dans d'autres pays en Europe qu'ils ont envie de rejoindre. On leur explique bien évidemment qu'on peut, à travers le règlement de Dublin, demander la réunification des familles et tout ça. Ce sont des longues procédures, mais on y arrive, on l'a déjà fait. Et d'ailleurs, il y a même une histoire d'un gamin érythréen qui a été réuni à son frère érythréen en Suisse, dans le canton d'Appenzell, en plus. Donc, oui, ça prend 8 mois. Et les gens, ils n'ont pas envie d'attendre. Alors, pourquoi faire durer ces réunifications familiales autant de temps? C'est vrai qu'à la base, il y a un problème de structure, d'organisation, de comment ces choses sont gérées en Europe.
Et en Suisse, Gaëlle Courtens, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on pourrait voir dans le futur des couloirs humanitaires arriver en Suisse, ces demandeurs d'asile arriver en Suisse par ces voies-là?
Alors, la Suisse a un système un petit peu différent d'accueil.
Ça existe déjà, certains, avec le HR notamment, ces partenariats, mais avec les églises.
Donc, avec les églises, il y a des choses qui bougent. C'est-à-dire que je sais que la Fédération des églises protestantes en Suisse est en train d'y réfléchir assez sérieusement. Il y a Sant'Egidio, en tout cas de Lausanne, qui est très, très intéressé, qui est en train de comprendre avec les autorités comment il pourrait faire un tout petit projet pilote. Donc, les volontés sont là. La capacité d'accueil aussi dans les réseaux d'églises aussi. Il faut voir comment les autorités suisses réagissent à ça. En particulier, bon là, sans le SEM, on peut pas bouger. Donc il faut voir comment d'un point de vue politique. Je crois que
service d'État aux migrations.
Mais je sais pas trop. Alors je sais que la Suisse fait déjà, notamment pour des Syriens, des arrivées en avion. Ce qu'il y a, c'est que là, tout est organisé dans une perspective d'État. Et il n'y a pas vraiment une participation de la société civile. Donc, ce que nous croyons qui est important avec notre projet, c'est justement de dire la société civile peut prendre des responsabilités et peut partager les responsabilités qu'a l'État.
Gaëlle Courtens, chargée de communication des églises protestantes en Italie. Tristan Michel, est-ce que cette idée de couloir humanitaire menée par les églises fait florès ?
Eh bien déjà, je vous le disais, on vient de l'apprendre, le projet entre le Liban et l'Italie est reconduit, cela veut dire 1000 visas humanitaires supplémentaires. Et puis oui, d'autres projets ont éclos, Sant'Egidio a signé par exemple un accord analogue avec la France en début d'année pour l'accueil de 500 migrants et un autre entre l'Italie et l'Éthiopie. Et je crois également savoir qu'il y a des négociations avec l'Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne, l'Espagne et le Maroc, avec plus ou moins de réussite.
Une opération donc à suivre. Merci beaucoup Tristan. Merci aussi à nos deux assistantes de production, Nicole Fontana et Nicole Corpato, ainsi qu'à Gilles Ozaman qui signe la réalisation de cette émission. Babel, c'est tout pour aujourd'hui. Dimanche prochain, nous parlerons de l'impact de la révolution russe sur l'Église orthodoxe. Mais tout de suite, place à Jean-Pierre Hamann et à Poussière.